Voix Nues. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Thibaut Henneton rencontre Gérard Bérébi. Ce soir, la naissance des éditions Alia.
Bonsoir Gérard Bérébi.
Bonsoir.
On se retrouve ce soir après avoir évoqué les années qui précèdent la création de la maison d'édition que vous dirigez aujourd'hui et que vous avez fondée en 1982. Vous avez alors 32 ans ou presque et vous trouvez que tout est de la merde.
C'est un peu présomptueux, il faut l'avouer. Mais je crois que quand on veut faire quelque chose, tout ce qui existe, en quelque sorte, ne nous convient pas, sans quoi on veut faire carrière. C'est-à-dire on a un boulot, on travaille dans un milieu et on fait des choses plus ou moins semblables, plus ou moins différentes, avec plus ou moins de talent et plus ou moins de réussite que les autres. Et c'est une vie comme une autre pour moi. Je pourrais faire une comparaison si vous voulez. C'est quand par exemple 3-4 personnes s'associent et font un groupe de rock, c'est que généralement, bien sûr, ils subissent des influences pour arriver à la musique qu'ils vont faire, mais ce qu'ils vont faire, essayer de trouver un son qui se remarque, un son inédit, quelque chose qui frappe un peu les oreilles, c'est qu'ils ont un point de vue critique sur tout ce qui existe. Et bien sûr qu'il y avait des choses que j'aimais et qui me plaisaient dans les livres qui existaient, mais dans l'ensemble, je pensais que j'allais arriver et bouleverser tout ça. Et je pense que c'est un sentiment, comment dire, positif.
L'analogie avec le rock, c'est quelque chose que vous faites assez souvent. Vous comparez plutôt votre maison d'édition à un label.
Oui, c'est un label parce que ça fonctionne comme un label, c'est-à-dire que c'est comme un groupe. Parce que quand on voit les individus, même si je travaille par exemple avec des gens avec lesquels je m'entends très bien, objectivement, nous n'avons rien à voir et rien à faire ensemble. Et ce qui nous attire, qui nous fédère et qui fait que l'on peut arriver à ce résultat, c'est qu'il y a cet intérêt commun pour une chose qui nous passionne et donc chacun donne le meilleur de lui-même et ça fonctionne comme cela. C'est-à-dire que c'est pas une association, il y a un technicien pour la fabrication, il y a quelqu'un qui est qualifié pour s'occuper des affaires commerciales, l'autre qui s'occupe de la partie éditoriale. C'est une espèce de magma où tout se mélange, où tout le monde se marche un peu dessus et tout le monde fait un peu tout. Et c'est très éprouvant, mais en même temps, je trouve que c'est salutaire parce que il n'y a que comme cela, c'est-à-dire que personne ne dit « c'est pas mon domaine, je ne sais pas faire ça ». Et en même temps, de faire des choses qui ne sont pas naturel pour nous permet de ne pas se scléroser, c'est-à-dire qu'on n'a pas des habitudes dans un domaine, je ne suis pas professionnel de quelque chose.
Est-ce que vous vous souvenez précisément du jour où vous êtes allé, j'imagine, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, déposer la marque Alia, enfin...
Ah, je ne l'ai pas déposé.
Alors comment ça s'est passé, la fondation?
Ça s'est passé que j'ai créé la maison avec un ami qui s'appelle Jean-Claude Renaud, qui travaillait aux éditions Plasma et qui était sur le déclin et qui ont fait faillite. Lui avait une expérience, moi je n'en avais aucune, et j'ai décidé de créer cette maison, et on était ensemble et dans un bar, et il a suggéré les toilettes Alia, parce qu'il a été aux toilettes, et il m'a dit c'est le début de l'alphabet. Évidemment, moi tout de suite j'ai pensé à l'urinoir de Marcel Duchamp, l'histoire me plaisait beaucoup, il y avait une couverture de la revue surréaliste belge Les Lèvres Nues, dans laquelle les lettristes et futurs situationnistes ont écrit leurs textes théoriques les plus importants, où on voit la statue de la liberté. Il y avait un dessin où il y avait la statue de la liberté qui tirait une chasse d'eau. Après, il y a d'autres significations qui se sont révélées, mais qu'on ne connaissait pas au départ.
Le latin, et Alia, les choses autres, les autres choses, l'élévation spirituelle.
Complètement. Et puis, pour chez les Juifs, c'est Alia, c'est la montée vers la Terre Sainte. Après, il y a plein de sens. Maintenant, c'est devenu une résonance qui nous est accolée parce que on connaît notre travail et l'orientation de notre travail. Mais au départ, c'était comme ça.
Au départ, c'est une provocation, donc.
Oui, tout le temps.
Et concrètement, donc, très matériellement, juridiquement, vous vous rappelez aller
Ben c'est très simple.
L'administratif, la paperasse.
Comment constituer une société? Il fallait un capital, je crois, de 2000 ou de 5000 francs de l'époque, qui correspond à quelques milliers d'euros. Il fallait un gérant, en l'occurrence, c'était moi, donc j'ai signé. Et puis, j'ai fait les démarches administratives, et puis je me suis jeté à l'eau pour faire des livres. C'est-à-dire que j'ai appris en faisant, parce que j'avais un associé qui avait de l'expérience. Mais très rapidement, et pour des raisons naturelles, nous nous sommes séparés sans nous fâcher. C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour une véritable aventure, et lui pensait faire une maison d'édition comme un travail, j'allais dire, normal. Alors que pour moi, c'était un investissement total, dans le sens où quand j'entreprends quelque chose, je m'y risque. Et en quelque sorte, ça paraît un peu ronflant, mais j'y mets ma vie en jeu.
Mais vous dites un investissement total, mais au départ, c'est un investissement qui est assez relâché, je dirais. Vous publiez peu de livres par an, vous faites d'autres choses à côté.
C'est relâché, j'ai publié peu de livres parce que je ne savais pas trop où j'allais. C'est-à-dire que, encore une fois, je le redis, je me méfie toujours de la manière dont on raconte des histoires a posteriori. Vous savez, j'étais chez moi, je réfléchissais, j'ai commencé à prendre des notes, et puis j'ai écrit, et j'ai construit mon projet. Je savais qu'il fallait que je passe par des étapes, mais j'avais tout dans la tête, etc. Non, j'avais dans la tête l'envie et le désir de faire quelque chose, et je pensais que j'étais à même de le faire. Et les choses se sont construites progressivement, par étapes, et surtout à travers des rencontres, des découvertes, parce que les éditions Alias sont mon université.
Oui, donc vous commencez, vous prenez des textes négligés par les autres éditeurs ou non protégés par le copyright. On peut prendre un exemple, par exemple, un des deux seuls livres que vous publiez en 1987, c'est « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». De Maurice Joly, un texte qui date de 1864, mais avant de le publier chez Alia, vous l'avez lu, évidemment, c'est donc qu'il existait une édition, quelque part. Ouais. En quoi ne vous a-t-elle pas satisfait ?
Eh bien, c'est l'un des livres, à mes yeux, les plus importants que j'ai publié aux éditions Alia, parce qu'il illustre parfaitement ma démarche. Maurice Joly était un avocat qui a été emprisonné parce que c'était un opposant à Napoléon. Son livre a été publié en Belgique parce qu'on ne pouvait pas le publier en France, c'était interdit. Et Maurice Joly, s'inspirant de l'abbé Galliani qui avait publié le dialogue sur les blés, a eu l'idée de faire dialoguer Machiavel et Montesquieu, à savoir leur représentation de l'état de droit et de l'état de fait. Et il montre dans ce livre, je ne vais pas l'exposer dans sa totalité, mais je prendrai un seul exemple, c'est l'exemple de la presse. Ce que dit Maurice Joly en faisant dialoguer Machiavel et Montesquieu, il dit « Ne n'emprisonnez pas vos opposants, ne les empêchez pas de parler et d'écrire, appropriez-vous ce qu'ils disent » afin de détourner le propos du cours naturel du fleuve. Et j'ai trouvé que c'était éminemment moderne, très contemporain, et je pense qu'à ce moment-là se situe la naissance ou les balbutiements, à la fin du 19e siècle, de ce qu'on nommera plus tard la société du spectacle. Et ce livre-là était très important parce que il a une double histoire, et ça m'a passionné. C'est-à-dire que le livre de Maurice Joly a été repris par les services secrets russes, à savoir l'Okhrana, à l'époque, c'était la police tsariste, pour fabriquer un faux qui est le plus grand faux de l'histoire, à savoir les protocoles des sages de Sion, qui est le livre qui a été le plus vendu au monde après la Bible. Et ce qu'a fait cet agent secret russe, c'est qu'il a trouvé le livre en Turquie. Il y a toute une histoire qui est publiée dans un autre livre, qui est racontée dans un autre livre que j'ai publié, qui est un livre de Henri Rollin, qui s'intitule « L'Apocalypse de notre temps ». Et j'en ai donné une édition partielle sous le titre « Une mystification mondiale » qui reprend toute l'histoire des protocoles. Et l'histoire des protocoles est complètement fascinante parce que à un moment, nous avons une déclaration du gouvernement anglais qui dit « si telle est la volonté des Juifs, il va nous falloir composer avec cela », c'est-à-dire dans la langue diplomatique. Et ça n'a pas été remis en question pendant très très longtemps, et c'est quand Henri Rollin a découvert le subterfuge de cette histoire qu'il l'a raconté dans le détail, c'est-à-dire qu'on prend une phrase que Maurice Joly écrit et met dans la bouche de Machiavel en disant « les choses sont ainsi parce que le pouvoir, etc. devient le pouvoir juif ». Et dans le livre, nous avons la comparaison sur deux colonnes avec le texte de Maurice Joly et le texte des protocoles, et on voit parfaitement, comme dans un exercice pratique, comment on détourne un texte de son cours naturel et qu'on lui donne une autre signification. Et je pense qu'on est les pieds dedans aujourd'hui dans ces problèmes avec ce qu'on appelle les fake news et des choses comme ça, et c'est un livre très éclairant.
Oui, le tout premier ouvrage que vous publiez en 1982, c'est un ouvrage du surréaliste belge Louis Skutner, qui ne marche pas du tout, vous dites.
J'ai publié ce premier livre de Skutner parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, parce que toute la mouvance surréaliste belge est présente maintenant dans mon catalogue, et c'est des choses qui m'ont formé et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est tout bête, un jour j'étais à Bruxelles, j'ai pris l'annuaire, j'ai cherché, j'ai trouvé Skutner, j'ai trouvé un numéro de téléphone. Il y a une femme qui m'a répondu, j'ai dit je voudrais rencontrer Monsieur Skutner parce que j'ai une maison d'édition. Elle m'a dit ben, venez, voici l'adresse. Et puis je l'ai rencontré et puis la chose s'est faite. Alors les livres ne marchaient pas. Comment j'ai fait ? J'ai eu l'idée, les premières années, puisque j'apprenais à faire des livres, je ne savais pas les faire, de mettre mes capacités balbutiantes, comme si elles étaient déjà professionnelles, au service des autres. Et donc j'allais voir des éditeurs et pour m'occuper de la fabrication de leurs livres et j'émettais une facture pour le travail réalisé. Je travaillais avec une imprimerie qui a été d'accord pour que je fasse sans que ce soit officiel, mais et c'était parfaitement légal, c'est-à-dire il n'y avait pas de contrat officiel, c'est-à-dire que je faisais l'agent commercial pour mon imprimeur qui était à l'époque en Belgique et je lui ramenais des clients. Les factures que j'émettais à mon imprimeur servaient à compenser les factures qu'il me faisait pour pas que je puisse que je ne pouvais pas payer, parce que si je devais les payer, j'étais parti en faillite. Donc c'est des petits bidouillages comme ça qui, de fil en aiguille, m'ont permis de faire 5, 10, 15, 20 livres. Et les 10 premières années de la maison d'édition, ou plus précisément les 9 premières années de la maison d'édition, j'ai publié 30 livres en 9 ans. Et en 1991, je décide à ce moment-là, non pas de tout abandonner parce que ça marchait pas, mais de mettre les bouchées doubles et de m'y consacrer pleinement. Et cette année-là, je publie 15 livres et il y a une grande avancée. Et là, ça commence à bouger parce qu'il y a différentes étapes. La première étape s'opère à travers le recueil de documents tout à fait inédits que j'ai publié en 1985, les documents relatifs à la fondation de l'international situationniste.
Dont on parlait hier.
Le deuxième ouvrage qui a fait parler de lui, c'était en 1991. J'ai publié un auteur contemporain qui s'appelle Michel Bounan avec un livre qui s'intitule « Le temps des sida » qui a provoqué un certain malaise.
Donc ça, c'est votre premier livre inédit en français ? Si je ne m'abuse.
Contemporain.
Contemporain. Et il se trouve que on tourne toujours autour des situationnistes, car Michel Bounan était le médecin de Bord.
Oui, à la fin de la vie de Bord, Michel Bounan a été le médecin. C'est attesté dans la correspondance qu'ils ont échangée. Et j'ai reçu ce manuscrit par la poste. Et si je l'ai reçu par la poste, j'en ai déduit que l'auteur l'a envoyé à pas mal de maisons d'édition, parce qu'à l'époque, l'adresse de la maison d'édition, c'était une boîte postale et je travaillais de chez moi. C'est-à-dire que son manuscrit, j'ai supposé, a été refusé un peu partout. Quand je l'ai reçu, ça m'a particulièrement intéressé sur la question du sida, parce que il faut resituer les choses dans leur contexte, c'est qu'on était en 1991. Et l'information qu'il y avait sur le sida n'est pas du tout la même que celle qui circule aujourd'hui et les connaissances non plus. Et Michel Bounan, qui était médecin, a été frappé par un élément, c'est que dans la presse médicale, ont rapporté un certain nombre de propos des spécialistes du sida, notamment du professeur Montagnier. Et dans la presse, la grande presse, on rapportait toujours les mêmes propos du professeur Montagnier, mais certains propos n'étaient jamais rapportés. Donc il s'est intéressé à cela, ce qu'il a appelé les cofacteurs dans le développement de l'épidémie, c'est-à-dire l'affaiblissement immunitaire des individus, qui était dû au stress de la vie contemporaine, qui était dû à la chimie agroalimentaire, qui était dû à un certain nombre de cofacteurs qui font que le terrain était propice au développement de l'épidémie. On a traité l'auteur de charlatan, ça a fait un peu de bruit, même
pas mal. Et notamment parce qu'il suggérait qu'il y avait de l'homéopathie, par certains aspects, pouvait régler...
Alors ça, c'est un mauvais procès qu'on lui a fait, parce qu'à la fin de son livre, il suggère, il propose un traitement homéopathique, mais à aucun moment il n'affirme que ce traitement homéopathique est prescrit pour se guérir du sida. Il dit que c'est un traitement homéopathique pour renforcer, pour tenter de renforcer ses défenses immunitaires. C'est pas du tout pareil. Et donc là, si vous voulez, j'ai appris à voir comment on organisait la confusion à travers cet exemple. Après ce livre-là, il y a un deuxième livre qui a beaucoup fait parler de lui. C'est très peu de temps après, je crois en 1991 ou 92, c'est « Les pensées de Leopardi ». J'ai découvert les Leopardi à travers mon ami Gianfranco Sanguinetti qui m'en a parlé et qui m'a dit « Tu devrais faire ce livre, les Français ne connaissent pas, c'est un auteur italien important parce que Leopardi jusqu'à présent était connu en France en tant que poète et ce qu'il m'a suggéré et qui était un bon conseil, c'était de le faire découvrir en tant que penseur. » Et alors là, c'était la première fois aux éditions Alia que je voyais ça. Une presse incroyable, des ouvertures de suppléments littéraires, des émissions de radio, le tirage épuisé en un rien de temps.
Ça y est, Alia était lancée.
Je ne sais pas si c'était lancé, mais disons que c'était très encourageant. Et puis, je me souviens que quelqu'un m'avait dit « Écoute, c'est pas mal, t'as fait des choses dans différents domaines, mais avec Leopardi, où tu as l'air de bien réussir à faire connaître cet auteur, tu devrais te spécialiser dans les classiques italiens. » Et moi, c'est le genre de proposition qui me plombait tout de suite. C'est-à-dire, j'avais beaucoup de mal à imaginer cela, c'est-à-dire à m'instituer. Ce qui fait que juste après les pensées de Leopardi, je publie Jésus-Christ Rastaquer du dadaïste Francis Picabia.
Contre-pied.
Et c'est ça qui me plaît. Quand je dis c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que non seulement ça me plaît, mais ça me motive et ça me donne l'envie. En prenant le contre-pied, comme vous venez de le dire, quand on regarde avec le recul l'ensemble des publications, il y a une assez grande cohérence dans tout ce qui se publie dans des domaines extrêmement divers et variés, dans des époques très étendues. Et toujours, nous avons cherché, et je continue de chercher, ce qui se trouve dans les différentes époques et dans les différents domaines comme recensé étant à la marge, mais en ramenant cette marge au centre.
Oui, c'est assez frappant de constater le décalage entre ce que vous me disiez lors d'une précédente émission, avant-hier peut-être, votre rencontre avec le livre, tardive, chaotique, et puis la forme très structurée qu'a votre catalogue aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le livre catalogue que vous avez fait en 2010. Vous avez une table des matières qui est très structurée, où chaque ouvrage publié depuis 30 ans, 35 ans, vient prendre place dans cette table des matières, Europe médiévale, Renaissance, Arcane de l'âge classique, enfin je pourrais citer comme ça la table des matières jusqu'à la fin d'une époque, les conditions du vrai. Donc ça c'est...
Alors je vais vous expliquer comment la chose s'est passée, c'est-à-dire que de 1982 à 2010, j'ai publié près de 500 ou 600 ouvrages. Et j'ai parlé tout à l'heure de Michel Bounan, qui est devenu un ami et qui est aussi médecin. Et un jour, on bavardait autour d'un café et je lui ai dit « Voilà, avec tout le travail que j'ai fait, j'aurais besoin qu'on fasse un état de lieu et un diagnostic en quelque sorte. » Et la chose l'avait amusé et intéressé, et aussi par amitié, il a travaillé à reprendre l'ensemble des titres des catalogues, de les poser sur la table et de voir un peu ce qui se disait, que je disais de manière inconsciente.
Et donc c'est Michel Bounan qui a pris les livres, il a fait des piles, il vous a dit « ah bah voilà, c'est
qui a fait la, qui a structuré le catalogue de cette manière-là et qui a donné cette table des matières.
Bon, alors nous sommes maintenant, on avance vite, je suis désolé car le temps passe, mais en 1995, la maison traverse une crise. Quel genre ?
Ben, une crise financière, c'est-à-dire que les livres ne se vendaient pas, ou très peu, je travaillais pour rien, et il fallait faire quelque chose, quoi.
Ce quelque chose, ce sera la petite collection.
Ben oui, j'ai eu l'idée d'inventer ce qu'on appelle la petite collection, parce que elle, je ne voulais pas lui donner de nom de collection.
Qui est en fait un
C'était
format.
Un profil. Je publie un premier livre de Malevitch.
La paresse comme vérité effective de l'homme.
Ouais.
Un texte inédit en français.
Inédit en français, dont Patrick Lebedev a fait une magnifique couverture qui est toujours exploitée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait fait un carré noir et avec le nom de l'auteur et le titre. Et les libraires s'en sont emparés, le public a acheté le livre, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le livre marchait très bien. Dans le même temps, j'ai publié un texte de Marx qui se trouve dans le premier chapitre du Capital. C'est un livre très important à mes yeux, c'est le caractère fétiche de la marchandise. C'est de ce texte-là que s'est nourri Debord pour forger sa notion de spectacle.
Et que les althusseriens ont voulu évacuer de l'œuvre de Marx.
Et aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que je me suis posé la question du prix des livres que j'ai toujours trouvé très cher.
Oui, vous dites, à moins d'être totalement abruti aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'un des problèmes fondamentaux de l'édition est le prix des livres.
Ouais, je confirme que j'ai dit ça et je le redis, oui. Je le pense, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une enquête sociologique très approfondie pour s'apercevoir que le problème fondamental de nos contemporains, c'est un problème d'argent au fond de la poche, quoi. Et donc, à partir de là, si vous faites des livres et que vous ne tenez pas compte de cela, moi, j'avais l'impression qu'il y avait une malhonnêteté et aussi une démarche erronée. Donc, j'ai sorti cette collection qui, à l'époque, coûtait 40 francs, c'est-à-dire 6 euros aujourd'hui. Et j'ai maintenu le prix pendant plusieurs années, quelle que soit l'épaisseur de livre. Le livre pouvait faire 64 pages ou 180 pages. Et j'ai publié toutes sortes de choses dans cette collection, c'est-à-dire aussi bien des essais que de la philosophie, que de la littérature étrangère. Et j'ai publié aussi des premiers romans français dans cette collection et qui ont rencontré un certain écho. Par exemple, dans une maison d'édition, quand on traverse une crise comme celle que vous venez de signaler que j'ai traversée en 1995, généralement, on vire le directeur artistique, on en prend un autre et on fait une nouvelle collection. Moi, j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que je l'ai gardé avec moi et je l'ai gardé avec moi jusqu'au bout. Je salue sa mémoire parce qu'aujourd'hui, il est décédé. En même temps, il a fait des choses audacieuses qui n'étaient pas évidentes commercialement, mais qui ont fait école. C'est-à-dire que le plus grand hommage que je puisse rendre à Patrick Lebedev, c'est que le travail qu'il a fait pour les éditions Alia a été passablement plagié par d'autres éditeurs. Les livres sont étudiés dans les écoles de graphisme. Donc il y avait là où on se retrouvait, c'est-à-dire que sur le plan éditorial de mon côté, et Patrick Lebedev, sur le plan esthétique, sur le plan graphique, de l'autre côté, en complément, on cherchait à inventer quelque chose, à créer quelque chose, en quelque sorte à créer un style dans l'époque, parce que ça ne nous intéressait pas du tout. On n'était pas du tout habité par cela, d'imiter ce qui existait déjà, que ce soit sur le plan esthétique ou sur le plan éditorial.
On a créé un style dans l'époque, on a créé un label, comme il y a eu de grands labels de disques qui se sont créés dans les années 50 par exemple. Et le label, dites-vous, a cet avantage que les lecteurs veulent tout connaître d'un catalogue et pas seulement le livre qui les a intéressés ou qu'ils ont lu.
C'est ça la force et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que on crée des passerelles au sein de notre maison. Quelqu'un qui lit un texte de Michel Bounan peut être amené à lire un texte qu'on a publiés sur l'alchimie ou des textes situationnistes, de la même façon en lisant un livre de Grell Marcus ou un livre de John Savage sur les Sex Pistols et sur le punk anglais, peut être amené à lire d'autres livres qui se trouvent là. Et je trouve, il me semble que quand on arrive à opérer ces liens transversaux au sein d'un même catalogue auprès des lecteurs, c'est qu'il y a une pensée qui se met en marche, une pensée qui est vivante, et une pensée, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, une pensée qui répond dans une époque donnée. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose de publier un livre aujourd'hui que si j'avais été éditeur en 1930 ou en 1960, parce que l'époque n'est pas la même.
Oui, c'est amusant de voir comment, finalement, tout en structurant, vous parvenez, via votre catalogue, à réintroduire un peu cette démarche chaotique ou, disons, structurée souterrainement que vous aviez vous-même quand vous étiez jeune lecteur et que vous découvriez des choses via des notes de bas de page.
Parce que j'ai l'impression, je ne voudrais pas l'affirmer de manière catégorique, mais j'ai l'impression que c'est la seule façon de découvrir, d'apprendre et d'être libre, c'est-à-dire de rester libre en apprenant et de ne pas se retrouver prisonnier d'une forme de savoir, parce que ça, je trouve que c'est une chose très terriblement angoissante pour moi. C'est pour ça que je me méfie des institutions, c'est pour ça que je me méfie des professeurs d'université qui dirigent des collections dans des maisons d'édition, parce qu'il y a une tendance universitaire dans un domaine ou dans un autre, donc c'est celle-là qu'on prime et pas une autre. Et l'idée de publier des choses, je ne dirais pas contradictoires, mais qui sont en dialogue et qui provoquent un écho entre elles, me paraît très motivant. Par exemple, je peux affirmer qu'il y a très peu d'auteurs morts ou vivants dans mon catalogue qui se sentent en mauvaise compagnie. Je ne dis pas que tout le monde aime tout le monde chez les morts et chez les vivants, et ça vient du spirit. Et le spirit, c'est l'esprit de cohérence, mais très ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est cohérent qu'on est dans un ghetto, c'est pas parce qu'on publie un texte dans le domaine politique qu'on reste crispé sur cette position pour pas publier autre chose qui risque de bousculer cela. Et ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me paraît juste. D'où qu'elle vienne, elle est juste.
Et ce spirit, il va assez loin. C'est-à-dire que vous avez aussi des principes intangibles. Vous réclamez aucun subside de l'État, aucune aide à la traduction. Vous voulez pas du logo du Centre National du Livre sur vos quatrièmes de couverture. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de coquetterie là-dedans?
Peut-être.
Merci.
Mais en même temps, ça s'est fait sans tout ça.
Merci, Gérard Berby.
Merci.
Retrouvez le dernier épisode de cette rencontre de Thibaut Henneton avec Gérard Berby directement sur le web. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son Laurent Lucas, Jordi Robert, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.